Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 32 du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de chansons électropop. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Beau. Salut Beau.
Salut.
Est-ce que je me trompe quand je dis électropop?
Pas du tout. Bon. Non, électropop, ça me convient.
Ouais. Ouais. Tu veux bien rentrer dans ce tiroir?
Oui, en fait, disons qu'avant tout, pop, c'est un truc qui me tient à cœur. Mmh. Et puis, électro, ça donne une petite caution moderne, donc ouais, très bien. Très bien, électropop.
Électropop, donc le deuxième album est sorti le 3 septembre, il s'appelle Coma Stadium.
Oui.
Il est sorti chez Spuzzle.
Ouais.
Tu nous dis deux mots sur Spuzzle?
Deux mots sur Spuzzle. Alors c'est Spuzzle Pop Musac. C'est une sorte de coproduction. Spuzzle, c'est un label qui a été monté par Duncan Roberts, un Anglais émigré en France.
Ouais.
Et qui lui aussi a un projet pop et qui ne trouvant pas de preneur a remonté ses petites manches et s'est dit je vais faire un label, et il a fait un label.
Donc il y a toi.
Donc y a... sur le label, il y a donc son projet qui s'appelle Dictaphone. Il y a moi, donc il y a un groupe anglais qui s'appelle The Cold Shoulder. Et voilà, c'est micro, indépendant, microscopique.
Si on te cherche sur le web, on te trouve. Il y a une page web, il y a un site, il y a un blog.
Exact.
Et là, il y a des reprises que tu fais.
Oui.
Qui, on pourrait les qualifier de détournées.
Ouais, disons qu'approcher différemment, donc détournées, ouais, tout à fait.
Ouais, tu t'amuses un petit peu, tu fais plaisir.
Oui, je garde la même attitude sur les reprises que sur les compos. C'est toujours d'essayer de trouver un angle différent, d'un truc un peu plus convenu. Sur les reprises, c'est plus facile parce que le truc existe vraiment en soi. Après, dans les compos, c'est d'avoir la même attitude, d'essayer de biaiser par rapport à ce qu'on peut s'attendre à entendre. Et sur les reprises, ouais, c'est de pareil, la même attitude, biaiser le propos.
Tu as fait un premier album en 2004 qui s'appelle 323 Zap Shanghai Baseball.
Ouais, tout à fait.
Et avant ce premier album, t'as des expériences en particulier, des groupes
Ouais, j'ai passé pas mal de temps en groupe pendant l'adolescence. On a fait le principal groupe étant Aero Charibang, une sorte de rock progressif, cabaret, dada, voilà. Assez difficile à décrire, mais bonne expérience.
Alors là, on va essayer de décrire ta démarche de création en quelques mots. Donc a priori, les chansons, tu les écris, tu les enregistres, elles sont publiées ensuite.
Ouais.
Au niveau écriture, enregistrement, est-ce que tu fais ça en même temps? Est-ce que c'est deux phases bien séparées?
En fait, c'est une même et longue phase, en fait. C'est que ça part de... C'est très classique, c'est soit des sons, soit un son de basse, un son de clavier, un son de guitare qui va... ou des enchaînements d'accords que je vais enregistrer. Et après, je vais commencer à foutre la merde dedans, en fait. D'une ligne de guitare, je rajoute peu à peu les éléments, je construis le gâteau, je rajoute des choses, je rajoute des pistes, encore et encore, et après je fais une sorte de travail de délagage, de 350 je passe à 30, et en chantant yaourt dessus, pour avoir le swing, et après le long et difficile processus de mettre des mots français sur ce yaourt, donc ça peut prendre très longtemps, comme des fois il peut y avoir des fulgurances, c'est rare mais ça arrive de temps en temps. Mais sinon, c'est un processus assez long. En plus, je suis quelqu'un d'assez pignoleur et perfectionniste, donc je vais pouvoir passer un peu de temps sur un son d'orgue, sur un blip-blip qui traîne, ou sur savoir quelle texture, à quel moment, voilà.
Et tu fais ça tout seul?
Ouais.
Du début jusqu'à la fin?
Du début jusqu'à la fin. En fait, sur le deuxième, c'était un peu particulier parce que... déjà, j'ai fait appel à quelques musiciens pour faire avoir des sensibilités différentes pour des lignes de basse, des tambourins, des conneries... des voix aussi, et pour le mix, en fait, j'ai fait appel à quelqu'un d'autre, en fait, à une personne qui lui est dans l'électro pur, sorte de truc qui bastonne un peu et qui en fait a pris en main le mix et un peu fait ça à sa sauce, quoi.
Et les musiciens dont tu parles là, c'est les mêmes qui jouent avec toi sur scène?
Pas forcément, non. J'ai fait appel à des amis eux pour faire des chœurs. J'ai fait appel à un pote bassiste. Je fais appel à des violoncelles et violons. Voilà, un peu selon les rencontres que je fais. Et voilà.
sur scène, il y a en plus de toi la guitare, un bassiste, une personne avec un clavier et un batteur, c'est ça ?
Exact, ouais.
L'écriture, ça commence, tu l'as dit tout à l'heure, par plein de choses différentes apparemment, ça peut...
Ben oui, ouais, c'est vraiment, c'est, chaque morceau a son histoire propre, en fait, il n'y a pas de méthode, ouais, ouais. J'espère pas en avoir d'ailleurs.
Donc l'idée se manifeste pour une chanson de manière très variée finalement.
Ah ouais, ouais, carrément, ça peut être dans la rue où je me laisse un message parce que soit il y a une phrase ou une mélodie qui me plaît ou en gratouillant un truc, un accident qui fait que ah, ça me plaît et que je vais en faire une compo ou des textures de son vraiment bidouillées sur un synthé et tout d'un coup avoir un truc qui va m'amener vers autre chose. La porte est ouverte vraiment à tout quoi.
C'est toujours un peu par hasard ou est-ce qu'il y a des moments où tu te dis là je m'y mets?
C'est toujours par hasard, pas plus. Ouais, en fait, quand je me dis là je m'y mets, c'est que j'ai déjà une base en fait. Je me dis jamais tiens aujourd'hui je vais composer un morceau en fait. Je me dis tiens je vais travailler sur des bases et puis après éventuellement je pianote des trucs et ça vient. Mais enfin, moi j'envisage pas ça possible en fait de me dire bon à 12h30 demain je fais un morceau de 3 minutes 30 groovy et glamour. Non non ça. Ça vient comme ça en fait.
Alors ça peut être une suite d'accords, ça peut être quoi d'autre ?
Une ligne de basse, ça peut être un son, ça peut être des
un son que t'entends comme ça quelque
ouais,
part.
Ouais, je sais pas, un son de synthé ou sur le fameux Dada Club
un cheval
voilà. En fait ça c'était inspiré parce qu'en fait je cherchais un disque de rap où j'étais sûr que c'était un cheval qui avait dessus. En fait c'est pas un cheval du tout, c'est un synthé. Je me suis dit bah tiens moi je mettrais bien un cheval justement.
Ouais.
Et voilà, c'est parti de ça. Il y a un gimmick qui est pas, voilà, ça peut partir de gimmick aussi ou de sonorité de mots qui claquent ou j'ai envie de les mettre en musique. C'est vraiment ça part dans tous les sens en fait.
Donc t'envoies quelques idées dans ton téléphone parfois, est-ce que du coup tu te balades avec un enregistreur pour attraper des sons à droite à gauche?
Non, je balade avec mon téléphone. Mais
ton téléphone, ouais.
Non, je. Enfin, si, j'ai un mini disque aussi des fois que je. Mais je. J'ai pas pris l'habitude de le prendre, mais ça m'est arrivé d'enregistrer des sons, ouais. Lors des voyages que je fais. Au départ, un souvenir, puis après, je peux les utiliser, ouais.
Par contre, apparemment, ce que tu fais pas, c'est de partir des paroles.
Non. J'y arrive. Enfin, oui, non, j'y arrive pas. Disons que. Le petit souci que j'ai avec la langue en musique, c'est que si c'est les paroles qui viennent d'abord, en général, ça groove moins. Et du coup, la musique qui va tomber dessus, en fait, qui va le mieux correspondre aux paroles que j'ai pondues, ça va toujours lorgner vers le cabaret ou des trucs un peu plus chanson française. Enfin, j'arrive. En fait, le texte m'emprisonne vite, en fait.
Ça veut dire qu'au niveau de l'écriture, t'as quand même un objectif qui est groové.
Oui, ouais. Essentiel. Ouais. Ça, c'est le maître mot. Je n'envisage pas une chanson où les paroles groovent pas, en fait. Mais ça peut être même une chanson lente où, quand je parle de groove, c'est pas forcément un groove funky. Hein. Ça peut être dans une chanson, une balade ou une chanson pop qui a pas vertu à faire bouger les gens, mais le texte doit claquer. Ouais. Il y a vraiment un souci de la métrique et que ça sonne, en fait. Je mets pas de texte en musique, en fait. C'est l'inverse, en fait. C'est le son qui est d'abord. Enfin, c'est le son qui fera sens, en fait. C'est pas l'inverse. L'inverse, j'y arrive pas en tout cas.
D'accord. Au niveau du moment où tu te mets à écrire, est-ce que tu attends une ambiance particulière?
Non, ça peut surgir un peu n'importe quand. Je peux être des fois en train de parler avec des gens et penser à autre chose en fait, parce qu'il y a un truc qui me vient en tête.
D'ailleurs là,
je suis en train d'avoir une idée de symphonie pour cochon. Non, mais par contre pour l'écriture des textes, ouais, c'est en fait j'ai toutes les maquettes et les. Tu vois, on parlait de surréalisme. Là, par exemple, à côté de nous, il y a un monsieur qui se fait masser la nuque avec une crème blanchâtre. Je sais pas si ça m'inspirera une chanson, mais en tout cas, ça me plaît. Donc pour les textes, ouais, par contre, là, c'est vraiment, je me mets avec mon petit cahier et à faire défiler les 375 000 mots qui sont susceptibles de pouvoir coller au moment précis de la chanson. C'est pour ça que c'est plus laborieux, d'ailleurs.
Ensuite, il doit y avoir un certain nombre de choix. Alors, est-ce qu'ils sont quasiment automatiques pour toi ou est-ce qu'au contraire, c'est une phase un petit peu plus longue? C'est comment tu vas choisir les sons, les instruments?
Ouais, c'est pas automatique du tout, non. C'est, en fait, quand il y a un morceau que j'arrange, parce qu'après, c'est que de l'arrangement, parce qu'on part toujours d'une base assez simple, que ce soit du piano-voix ou guitare-voix ou une basse. Quand vient le moment de l'arrangement, en fait, j'ai un souci, pareil, comme comme les mots, enfin tout doit s'imbriquer pour moi de façon logique, ça veut rien dire, mais en tout cas ça doit bien, disons que la base doit coller avec certaines textures, et en plus les textures vont amener des idées pour les textes, donc c'est un travail assez pas laborieux parce qu'il me passionne en fait, mais je peux passer effectivement une journée sur un son d'orgue parce que pour voir si on n'est pas dans le cliché, si il est intéressant, s'il se justifie, si il colle vraiment à la personnalité du truc, si il n'est pas trop décalé ou pas assez. Enfin, il y a un vrai travail sur les textures, ouais. De toujours avoir le souci de, en fait, de que ça serve le propos. Et le propos, il peut être différent, mais en tout cas, dans la musique telle que je la conçois, j'ai envie que le propos soit empreint d'une certaine tradition pop, mais qu'il soit aussi à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup le hip-hop ou des musiques plus électroniques ou autres. Essayer de faire le mix entre tout ça, quoi.
Il y a justement la tradition pop, est-ce que quelque part ça fige un peu la structure du morceau ?
Ça la guide. Ça la fige, mais plutôt du bon côté en fait, dans le sens où moi, de m'attacher à une structure de 3 minutes 30, couplet-refrain, pont, coda, il me faut cette structure-là pour pas m'éparpiller. J'ai déjà tendance à m'éparpiller dans ce format-là, donc je fais en sorte de... Pour moi c'est un canevas en fait, cette structure, c'est vraiment c'est un repère plutôt qu'une contrainte en fait.
Au moment où tu enregistres, il y a des instruments que tu dois jouer toi-même.
Ouais.
C'est quels instruments ?
Tous.
D'accord.
Ouais, disons que je fais tout un peu mal, mais suffisamment bien pour que ça exprime ce que j'ai envie de faire. Puis si j'ai envie de le faire jouer mieux, je ferai appel à quelqu'un, mais sinon, pour la plupart des morceaux, je vais d'abord programmer une batterie à base de loop ou de son. Après, je vais te poser une basse dessus. Après, je mettrai des guitares. Après, je vais mettre du clavier. Voilà, l'aide du computer aussi est très sympa au moment où on doit mettre des claviers en place.
Et donc, au niveau matériel et logiciel, ça donne quoi ?
Je travaille sur un ordinateur avec un programme de musique qui s'appelle Digital Performer. Voilà. En fait, je suis pas très intéressé par le programme en lui-même. Si n'importe quel autre programme faisait la, enfin n'importe quel autre programme peut faire l'affaire. En fait, c'est juste que celui-là, je l'ai appris et que je le connais et que ça me convient très bien, quoi.
Et au niveau de la prise de son des instruments, souvent on fait ça en studio, là, comment tu te...
Ouais, quand on a les moyens, on fait ça en studio. Quand on a mes moyens, on le fait chez soi. Donc j'ai un très bon micro qui est pas censé faire tout ce que je fais avec, mais bon, d'un autre côté, ça me traumatise pas plus que ça. J'ai une sorte de Neumann que j'utilise pour les guitares, pour les voix, pour les tambourins, pour les shakers, pour tout ce qui... Ouais. Passe partout. Ouais.
Est-ce qu'au moment d'enregistrer tout ça, de faire les sons, t'as une méthode particulière ?
Pas du tout, non.
Justement par rapport au contexte qui n'est pas celui d'un studio ?
Ouais, non.
Par exemple, pour gérer la réverbération chez toi ou...
Ah ouais, non, c'est un travail de port en général. Alors moi, je me rends pas compte des conséquences que ça a, mais c'est vrai que la personne avec qui j'ai mixé là, le deuxième album s'arrachait un peu le peu de cheveux qui lui restait quand il entendait qu'il y avait une sorte de réverbération de la pièce complètement pourrie qu'il fallait... Donc il a fait beaucoup de colmatage plutôt que de... Enfin, s'il a fait du vrai mix, mais il y a des fois beaucoup de choses qui s'apparentaient à du colmatage, du rattrapage. C'est l'inconvénient de bien aimer la lo-fi en fait. C'est que c'est sympa, mais après pour mixer, c'est une vraie galère, quoi.
Donc, c'est pour ça que tu donnes ça à un autre.
C'est pour ça que je donne ça à quelqu'un d'autre. Moi, ce processus-là m'intéresse moins en fait. Moi, j'arrange tout, je livre le truc, et puis après, lui se dépatouille avec ça, quoi.
Donc a priori, tu rencontres pas de problème technique particulier
Non, pas vraiment. Je rencontre que, j'allais dire des limites, mais en fait, ces limites peuvent même être intéressantes en fait. Mmh. C'est que,
par exemple.
Bah, en fait, le fait d'avoir. Il m'arrive par feignantise de mettre une guitare directement dans une console au lieu de sortir l'ampli, de mettre le micro devant, et des fois ça me donne des sons. Il y a un solo de guitare qui sur le deuxième album qui est enregistré avec une guitare acoustique directement dans le dans la table, et du coup le son est pourri, mais après c'est intéressant d'avoir la démarche de savoir comment on le dépatouille pour que ça donne un truc pas pourri en fait, du moins un truc vraiment perso. Et cette démarche-là, j'aurais peut-être pas si j'avais tout le matos. Donc ça pousse des fois à la créativité. C'est ça qui m'intéresse un petit peu dans le... Comme disent les Américains, less is more.
Au moment de la publication, est-ce qu'il y a un travail avec le label, par exemple, la sélection des titres ?
Non.
Non ?
Non, c'est le... L'avantage d'un label ultra-indépendant, c'est que... Ils ne mettent pas, et heureusement, le nez dans ce que je fais.
Tu livres un produit fini ?
Je livre le produit fini, ouais.
D'accord, la pochette, tout ça.
La pochette, c'est fait par, par un ami qui tâte du graphisme. Non, il n'y a aucune...
Il n'y a plus qu'à presser, alors.
Il n'y a plus qu'à presser, ouais.
Alors, outre la publication sur l'album, il y a la publication, finalement, en live, au concert. Mm-hmm. Là, forcément, il faut adapter les morceaux.
Ouais.
Comment ça se passe, cette phase?
Ben, ça se passe que ça devient autre chose, en fait. Disons que moi, quand j'avais commencé le live avec ce projet, j'avais une grande peur et un souci de livrer tel quel, en fait. Et je me suis aperçu au bout de quelques temps que ça rimait à rien parce qu'il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup de loops, de conneries, de bidules qui sont infaisables, ou alors si elles sont faisables, ça fige le truc, parce qu'on a joué pendant une période avec un ordinateur sur scène où le batteur jouait au clic. On s'est vite rendu compte que ça manquait un peu de cronesse et de sueur. Donc maintenant, il y a le clavier déclenche des samples, il joue des claviers, et en fait ça prend une tournure plus rock'n'roll et ça devient quelque chose de différent, vraiment, moi j'estime intéressante, mais qui s'éloigne du truc initial tout en respectant le propos, quoi.
Tu parlais d'un petit problème qu'il y avait éventuellement à jouer avec un ordinateur. Il y a eu d'autres problèmes par rapport aux adaptations pour jouer en concert?
Bah non, après c'est des problèmes qui sont pas très... encore une fois, qui poussent à la créativité, parce que c'est vrai que quand on a des samples qui sont calibrés d'une certaine façon, pour après, nous on change le tempo, donc après ils collent plus, donc ça pousse à chercher autre chose, donc c'est pas vraiment des problèmes, c'est plutôt des heures qu'on arrive à transformer en création. Mais l'ordinateur, c'était un problème dans le sens où ça figeait le truc, ouais. Mais on s'en est débarrassé depuis. Puis avec toutes les couilles techniques que ça imposait, donc des fois ça démarrait pas, des fois ça s'arrêtait au milieu. Voilà, non, je ne recommande pas l'ordinateur pour une formation rock'n'roll.
Du coup, c'est doublement intéressant pour les gens qui viennent au concert, puisqu'il y a la version album qui est complètement différente.
Ouais.
Est-ce que tu as des retours du public par rapport à ça?
Live, ouais, il y a toujours des bons retours en live.
Ouais.
Bah, en fait, des fois, ce qui me chagrine, c'est qu'il y en a qui préfèrent le live à l'album. Moi, je préfère toujours... Moi, je considère vraiment les deux choses comme différentes. Mais c'est vrai que des fois, je me casse le cul sur un truc pendant des siècles et on me dit « Putain, finalement, le live, ça le fait bien. » Je me dis « Mais merde, alors... Mais non, il y a toujours de très bons retours, parce qu'en plus, il y a la dimension humaine qui intervient. C'est-à-dire que là, on n'est plus face à ces enceintes, on est face à quatre gars qui donnent de leur énergie... et qui, selon les soirs, le donne plus ou moins, mais en tout cas, il y a toujours une volonté de le donner, en tout cas, et un truc assez généreux, assez expansif.
Et à terme, t'es pas tenté par un album live ?
Non, je suis tenté par un album hybride. Donc j'aimerais bien, pour le troisième, commencer à faire un mix des deux, en fait. D'avoir une section rythmique live, basse batterie, mais qui joue au clic, là, pour le coup, pour après rajouter des samples, des petites bidouilles. C'est vers ça que je me dirige, ouais.
Donc le troisième album, ça pourrait être ça?
Le troisième album sera plus, ouais, dans une veine toujours bidouille, parce que ça me tient à cœur, mais peut-être plus avec un peu plus de jouerie, quoi. C'est vrai que les machines, il y a cet inconvénient de... que ça bouge pas, ça manque un peu de fragilité. Ça a des avantages inouïs, déjà le fait de pas avoir à scolter des musiciens, c'est un sacré avantage, mais par contre il y a aussi les limites de ces avantages là, quoi. Et c'est vrai que, en plus, c'est une question de confiance. Une fois que je dis pas que ça y est, deux albums, je suis arrivé à rien, quoi, mais on prend confiance en sa musique et on se dit qu'on peut la confier en d'autres mains, en fait. On prend confiance en son discours aussi. C'est que moi, si aujourd'hui je demande à un batteur de jouer ma musique, je sais ce que je vais lui demander, en fait, et je sais ce que je serai prêt à recevoir de lui, de son apport, sa créativité, là où je mettrai la barrière. Je me sens plus capable de le dire aujourd'hui, quoi.
Et si demain on te proposait un immense studio rempli de musiciens hyper talentueux?
C'est une bonne question. Je sais pas ce que j'en ferais, à vrai dire. J'en ferais certainement rien, en fait.
Ah.
Bah non, parce que pour moi, c'est...
Tu restais dans la bidouille. Hein.
Ouais, enfin, donc ça n'empêche pas. Je peux enregistrer un album symphonique demain avec 350 violons. Mais bon, si le morceau il est naze, c'est pas parce qu'il y aura 350 violons qui sera moins naze, quoi. Donc non, j'ai encore un peu dans cette démarche un peu empirique de moi faire les trucs vraiment à la maison, après les proposer, et puis de voir comment ça tourne, quoi.
Alors sur ta page MySpace, il y a une rubrique qui s'appelle Influence, comme dans quasiment toutes les pages de MySpace. Mm-hmm. Sauf que là, elle est extrêmement peu bavarde, cette rubrique. On y trouve quasiment rien.
C'est vrai.
Alors si tu veux, on peut creuser la question en quelques instants. Est-ce qu'il y a des morceaux en particulier dans ton enfance qui t'ont donné goût à la musique ?
Dans mon enfance ?
Ouais. Des choses que t'as écoutées,
c'est
que
pas tant des morceaux que ce que la musique m'évoquait, quoi. C'est que très très tôt, en fait, la musique m'a évoqué un jardin dans lequel j'avais envie d'évoluer. Mmh. Et ça passe par l'environnement familial dans lequel on est. Ma mère est une grande fan d'Elvis Presley, donc j'ai entendu ça. Déjà, ça me plaisait bien. Il y a du classique aussi, mais ça m'a moins touché. Et puis après, il y a des rencontres. Moi, j'ai rencontré la personne qui fait de la basse aujourd'hui sur scène avec moi, avec qui on a partagé le fameux groupe dont je parlais tout à l'heure pendant 10 ans.
Morceau d'Elvis, par exemple ?
Quel morceau d'Elvis ? Enfin, vraiment les grands classiques, quoi. Hound Dog, par exemple, c'était assez épaté par l'ambiance qui s'est dégagée, quoi. Puis après, c'est via cette amitié-là, c'est le père qui écoutait de la musique, toute la pop anglaise, tout ce qui est Beatles, Elton John et compagnie.
Et pour apprendre la musique, il y a peut-être des morceaux que tu as joués, rejoués et encore rejoués en particulier ?
Ouais, en fait, dans le fait d'être très attiré très tôt par la musique, je voulais apprendre la batterie. Ma mère m'a dit « fais d'abord du piano ». Je n'ai pas bien compris dans l'instant. Donc j'ai fait du piano, fait de la batterie et puis après je me suis mis à la guitare. Et là, d'ailleurs, les premiers morceaux que je reprenais, c'était « Love Me Tender » à la guitare. Avec une guitare où les cordes étaient à 7 mètres du manche. Et voilà, après c'était de jouer avec ce copain. Et...
Vous faisiez des reprises à ce moment-là peut-être ?
On faisait que des reprises,
Que des reprises par exemple ?
Ça a commencé par des trucs assez vaseux. On avait fait du rock'n'roll, on avait fait du rock'n'roll, on avait fait du Elton John aussi. Et puis peu à peu, quand on a commencé à se mettre en formation, on a fait du John Cougar Mellencamp, on a fait du U2, enfin vraiment tous les trucs, les clichés de la fête de la musique, quoi.
Après, il y a eu les Doors,
voilà. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait joué celui-là, mais ça m'étonnerait pas.
Lequel des Doors, par exemple ?
On a eu la grande période Doors, comme tout le monde à ce moment-là, mais il y a eu Roadhouse Blues, Break On Through, Light My Fire. J'en passe, c'est les meilleurs.
Et en ce moment, tu prépares des nouvelles reprises pour ton blog, peut-être ?
Oui, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais faire une reprise de Funky Town, en fait. Et j'allais reprendre Folk, je pense, avec un tempo assez lent. J'ai la rebaptisé Folky Town, je pense. Voilà le projet.
Et à part les reprises, peut-être tu fais des collaborations avec d'autres artistes, non ?
Ouais, j'étais amené là à collaborer avec mon amie Mélanie Bauer de Nova, qui fait une compile avec les artistes qui lui tiennent à cœur, dont moi. Et on a fait un duo ensemble, et via cet album, j'ai rencontré aussi une autre musicienne sur MySpace à la base, qui s'appelle Annabelle Poppy Day. On a fait un duo ensemble, voilà pour les collaborations.
Dans ton salon, qu'est-ce que tu écoutes ?
Dans mon salon, qu'est-ce que j'écoute ? En ce moment ? En ce moment, j'écoute Dear Hoff, un groupe américain qui ressemble à rien. Et c'est tant mieux. En fait, j'étais dans une boutique à Montréal où je cherchais le dernier album de Architecture Helsinki, parce que j'ai beaucoup écouté Architecture Helsinki, l'album d'avant, In Case We Die. Il m'a dit qu'il n'était pas sorti, il m'a dit « mais si t'aimes bien, écoute ça, Dear Hoff ». Effectivement, il avait raison. C'est une sorte de rock progressif avec une japonaise qui chante en anglais, avec des bruits bizarres dans tous les sens et des structures de très 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 étranges. Et j'ai écouté beaucoup Sondre Lerche aussi, un popeux norvégien plein de talent. J'ai écouté TTC, le deuxième, Bâtard Sensible.
Ouais.
J'ai Club des Losers aussi, j'ai écouté pas mal. Le dernier Arthur H. Dernier Philippe Catherine aussi. Ça, c'est pour les actus.
Et dans ton baladeur, tu mets des choses différentes ou...
Je n'ai pas de baladeur.
Pas
déjà.
De baladeur.
Mais
est-ce que tu as une voiture dans laquelle tu pourrais...
J'ai une voiture, voilà. Alors, dans laquelle j'écoute beaucoup de musique dans la voiture. En fait, je fais une sorte de yo-yo entre le passé et le présent, en fait. Je vais écouter des trucs de hip-hop plus récents, justement comme TTC ou autre, et je vais alterner avec John Lennon. C'est une sorte de de maison affective sonore qui est les Beatles en fait, c'est-à-dire que si ça va pas bien je me réfugie vers les Beatles.
On entend le nom de John Lennon sur ton deuxième album,
tout à fait, une sorte de traumatisme Beatlesien dont je me suis toujours pas remis, avec un amour porté plus sur John Lennon, avec le fameux débat plus McCartney ou Lennon.
Maintenant imaginons que tu fasses une soirée, quel morceau tu vas passer avant tous les autres?
Avant tous les autres?
Voilà.
Bah ça dépend en fait de la soirée, est-ce qu'il faut que les gens dansent, ou est-ce qu'il faut que les gens pleurent, ou est-ce qu'il faut que les gens fassent l'amour dessus Je sais pas, c'est une bonne question, parce que il y a des morceaux qui bizarrement me touchent vachement, enfin parmi mes morceaux préférés, mais qui est pas forcément ce que j'écoute tout le temps en fait. Il y a un morceau, il y a Sitting on the Dock of the Bed.
Donc ça c'est pour faire l'amour.
Voilà, c'est pour faire l'amour. Il y a Sleepwalk de Richie Valens, ça aussi c'est un peu... Ça aussi c'est pour faire l'amour. Et puis il y a Be My Baby des Be My Baby. Bon, tout ça c'est que des trucs mous quoi. Mais...
Donc chez toi on fait l'amour voilà.
Chez moi on fait l'amour très souvent. Chez moi on a des velléités à faire l'amour. Après ça se concrétise plus ou moins, mais il y a une ambiance. Ouais.
Finissons par la question cadeau. Si tu faisais un cadeau à quelqu'un aujourd'hui là tout de suite, si t'avais un CD à lui offrir.
Aujourd'hui
serait...
là.
Ouais.
Aujourd'hui, j'offrirais Dear Hope, ouais. C'est mon truc du moment. Et puis en plus, je suis assez monomaniaque. Quand j'écoute un truc, je l'écoute beaucoup, en fait. Et là, voilà. Mais je vais être dégoûté dans deux semaines, hein, mais là, aujourd'hui, avant deux semaines, j'offrirais ça, ouais.
Est-ce qu'il y a un coup de cœur du moment dont on n'aurait pas parlé?
Un coup de cœur du moment dont on n'aurait pas parlé, bah écoute, les fameux Dear Hope. c'est chiant, parce que ça semble être bloqué là-dessus, mais... Moi, c'est le genre de disque qui me rassure. C'est-à-dire que quand je vois que des disques comme ça sortent, je me dis bon, ça va. Il y a encore de la place pour des trucs un peu débiles.
Est-ce qu'il y a des potes à toi qui font des trucs extraordinaires qu'il faut absolument écouter?
Ouais. J'ai un pote qui s'appelle Julien Ribaud, qui a énormément de talent, qui fait de la pop assez lyrique, onirique, qui lorne vers Divine Comedy.
Ouais.
En français. Il devrait sortir son album en 2008, je crois, mais son premier et son deuxième sont excellents. Et il fait des jolis dessins aussi.
Et parmi tes influences, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas citées?
Je suis sûr que dans deux heures, je vais me dire « Ah mais oui, je lui ai pas dit machin et machin !» Parce qu'effectivement, sur le moment, on n'y pense jamais.
Et ouais.
Mais faudrait venir chez moi quand on dépatouille les disques. Je ne vais pas parler de mon grand amour pour Lou Reed, pour le Velvet Underground. Des Kinks aussi. Ben Queller, qui est un mec que j'écoute beaucoup en ce moment aussi. Voilà, j'en oublie des milliards, mais...
Tu m'appelleras et puis
je t'appellerai, je te ferai une liste exhaustive, voilà.
Super complète.
Des 3735 artistes que j'écoute.
Alors, on va terminer par quelques questions. Qu'est-ce que t'as appris à l'école qui te sert le plus aujourd'hui?
Ah. C'est une bonne question.
Pas grand-chose, apparemment.
Si. À lire, voilà. Lire est une... Je ne soupçonnais pas que ça pouvait être une telle ouverture, à l'époque, bien sûr.
Oui.
Mais de savoir déchiffrer des mots mis bout à bout pour après lire des livres, voilà, ça c'est une... Ça m'a pas donné envie de lire des livres à l'époque. Mais j'ai plus appris après l'école, finalement.
Alors justement, qu'est-ce que t'as appris par l'expérience qui te sert le plus aujourd'hui?
Comment dire? Ce que j'ai appris le plus, déjà en fait, ce qu'on apprend le plus, c'est d'être perdu après l'école. Parce que forcément, en plus dans un domaine comme la musique, on dit, quand on me demande ce que je veux faire plus tard, quand on a 17-18 ans, la musique c'est pas un métier, tout le monde nous le dit quoi, la musique c'est pas un métier. Parce que quand je dis je veux faire la musique, on me dit mais sinon qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça m'a appris en fait une certaine... pugnacité dans mes choix et une certaine entêtement, disons que le...
Une affirmation.
Voilà, une affirmation de soi par rapport justement à la en proportion de la perdition dans laquelle j'étais en sortant des codes de l'école.
Et qu'est-ce qui a changé principalement dans ta démarche de création?
D'aller plus à l'essentiel. disons que dans la démarche de création, il y a, mais ça c'est vraiment lié à ce qu'on vit, ce que j'aime dans la musique, dans n'importe quel art d'ailleurs, c'est que ceux qui me touchent le plus, c'est on va dire ceux qui sont le plus sincères et le plus proches de ce que la personne peut vivre. Et c'est vrai que moi, adolescent, je faisais une musique où il fallait que je montre, que je me touche la bite devant tout le monde en disant ah regardez, je fais des morceaux de 7 minutes. C'est ça que je me suis tourné vers le rock progressif. Et de plus en plus, j'apprends à accepter dans le processus créatif que ce qui me fait vraiment le plus kiffer de tout ce que je peux écouter, c'est des chansons, quoi. Et c'est de ce que j'essaie de mettre en œuvre aujourd'hui dans les morceaux, c'est de en 3 minutes 30 d'avoir un propos précis mais pas dispersé.
Des chansons qui groovent.
Ah bah oui, de préférence.
Est-ce que tu aurais un conseil pour un débutant qui voudrait se lancer dans les chansons électropop ?
Un conseil pour les débutants ?
Ouais.
Je n'ai pas la prétention de donner quelques conseils que ce soit.
Rien du tout alors.
Non, moi, en tout cas, moi, ce que j'ai...
Un petit jeune qui vient me voir.
Non, mais c'est de trouver l'équilibre très, très dur à trouver entre ce qu'on a envie de dire de façon très intime et les conseils qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on est, je fais pas de la musique pour moi. Enfin, je fais d'abord de la musique pour moi, mais c'est essentiellement pour la partager. Parce que c'est pour que moi, je ferai autre chose à côté. Mais il y a une sorte d'urgence de le partager, en fait. Et en fait, de savoir garder toujours en tête pourquoi on fait ça. En fait, quel est le propos. Voilà. Moi, je m'aperçois que le propos, il est toujours le même. C'est de traduire en notes ce qu'on ressent intimement en soi, et de pas se perdre dans des considérations comme ouais mais essaye de faire un truc qui va plus plaire parce que la tendance c'est plus ça en fait. Voilà, si le propos est honnête, il y aura toujours je pense une écoute, quelqu'un que ça touchera en fait.
Alors si les gens veulent être touchés par ta musique, ils peuvent venir te voir en concert.
Oui, voilà. Non seulement ils peuvent mais ils ont intérêt.
Alors je vais donner deux dates, hein, le 19 octobre au Tamanoir à Gennevilliers et le 26 octobre au Réservoir à Paris.
Tout à fait.
Voilà, donc on les attend.
Eh ben, avec plaisir. Venez nombreux.
Merci Beau.
Ben merci à toi.
Salut.
Ciao. Sur mon divan.